إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحمد الله وأشكره أن يسر لنا هذا في بيت من بيوت الله أن نتدارس فيما بيننا موضوعا مهما ذكرناه الأسبوع الماضي، ألا وهو فضل وحكم تعلم اللغة العربية، فضل وحكم تعلم اللغة العربية. ولضيق الوقت أحببت أن تكون هذه الجلسة عبارة عن قراءة من كتب أهل العلم، فهي كافية شافية في هذا الموضوع، حيث قسمت هذه الجلسة على نقاط أساسية حتى نستفيد إن شاء الله تعالى. فأولا سنتكلم إن شاء الله تعالى إن تيسرنا هذا عن أهمية تعلم اللغة العربية. الموضوع الثاني نذكر الآثار الواردة، نذكر الآثار الواردة عن علماء هذه الأمة في فضل وتعلم اللغة العربية. النقطة الثالثة نتكلم إن شاء الله تعالى عن الحكم الشرعي في تعلم اللغة العربية، هل فرض؟ وإن كان فرض فهل هو فرض عيني أو كفائي أو أنه مندوب أو غير ذلك، سنفصل في هذه النقطة إن شاء الله. النقطة الرابعة وإن تيسر لنا كما قلنا لكم أن هذا الموضوع سيكون على حصتين، أي اليوم إن شاء الله تعالى ويوم الجمعة. فإن تيسر لنا سنتدارس إن شاء الله، وسأذكر أثر اللغة العربية في الأحكام، سواء في مادة التفسير أي تفسير كلام الله جل وعلا، أو أحكام فقهية. فأذكر إن شاء الله تعالى إن تيسر من الوقت بعض الأحكام المتعلقة وأثر اللغة العربية في استنباط الأحكام، فهذا مهم جدا وسيكون عبارة عن تطبيق لما يعني فيما يكون موضوع هذه الحصة. فأولا كما قلت سنبدأ بذكر فوائد تعلم اللغة العربية، بمعنى أو بصيغة أخرى ما الفائدة من تعلم اللغة العربية، ما الفائدة من تعلم اللغة العربية. هيا كعادتنا دائما في الحصص تكون يعني عبارة عن أسئلة وأجوبة، ما أريد أن تكون خطبة جمعة والإمام يسرد خطبته، فكما هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وهكذا تعلم الصحابة والتابعون وتابع التابعين، أخذوا العلم بهذه الأوجه، ومن بينها عبارة عن طرح أسئلة مع الإجابة عليها، وكعادتنا من يجيب فسيتحصل إما على كتب أو أشرطة أو غير ذلك. فحتى تكون الفائدة عامة نجعل الدرس بهذه الطريقة كعادتنا. السؤال الأول أو النقطة الأولى التي نجعلها عبارة عن سؤال، ما فائدة تعلم اللغة العربية؟ أترجم ما ذكرت ثم أعود إلى السؤال. طيب جزاكم الله nous a facilité de faire cette séance et cette assise dans ces maisons, qui est la mosquée. Et c'était le sujet, comme on avait déjà signalé, le titre de cette assise est le jugement et les mérites de l'apprentissage de la langue arabe. C'est un sujet très important, et on va voir, inshallah ta'ala, l'importance d'apprendre la langue arabe, qui est la langue du Coran, et qui est la langue des prophètes. Donc on aura, par la suite, inshallah, dans cette assise, on va traiter plusieurs sujets, par lesquels j'essaie de traiter certains sujets pour balayer un petit peu et traiter en gros le sujet. Pourquoi ? Parce que faire une séance ou des séances pour parler sur ce sujet, c'est pas assez suffisant. C'est pas assez suffisant pour parler sur tous les mérites et tout ce qui concerne la langue arabe. Donc c'est pour cela que j'ai essayé de diviser cette assise. Même, c'est la seule assise aujourd'hui. Et le vendredi, c'est la deuxième assise, Inch'Allah. Sur le même sujet, qui est l'importance de l'apprendre la langue arabe. Mais, dans ces deux assises, Inch'Allah, j'ai divisé, les points qu'on va traiter sont les suivants. Le premier point, je vais parler sur les avantages d'apprendre la langue arabe. Quel est l'intérêt? Pourquoi on apprend la langue arabe? Donc ça, c'est le premier point qu'on va aborder. Le deuxième point, on va citer toutes les paroles des savants depuis le khalife Omar ibn al-Khattab jusqu'aux noms savants contemporains. Donc on va citer tout ce qu'ils ont dit, ou parmi tout ce qu'ils ont dit, les savants concernant ce sujet, l'apprentissage de la langue arabe et la valeur d'apprendre la langue arabe. Donc ça, c'est le deuxième point. Ensuite, on va parler, qui est le troisième point, le jugement, dans la jurisprudence, le jugement d'apprendre la langue arabe. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce qu'il est préférable? Pourquoi? C'est simple. Parce que si c'est une obligation, et on ignore que c'est une obligation, et surtout, peut-être, il y en a qui savent, mais ils ne font pas les causes pour apprendre. Donc, ils pourront faire ou commettre un péché, parce que c'est une obligation. Ou il est préférable? Il est préférable d'apprendre la langue arabe. Donc, on va traiter ce point. Et le quatrième, si on aura le temps, certainement pas aujourd'hui, mais la prochaine fois, Inch'Allah, la deuxième assise, qui sera le vendredi, Inch'Allah, on va parler sur l'influence. Écoutez très bien, ça va être une pratique de ce qu'on va traiter comme point. C'est-à-dire l'influence et l'impact des jugements. C'est-à-dire comment on peut influencer la langue arabe pour tirer des jugements. Parce que, certainement, les adorations ou les jugements de la législation, ils sont tirés de la parole d'Allah, qui est le Coran, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le hadith, qui est le sunnah. Mais les savants, certainement, eux, ils déduisent d'après les textes que ça, c'est une obligation. Ça, il est préférable. Ça, c'est moubah, il est permis. Ça, c'est interdit. Ça, c'est détestable. Mais ça, comment ils ont déduit ça? Ça, c'est à partir de la langue arabe. Parmi les outils, c'est la langue arabe. Donc, je vais donner des cas. L'influence de la langue arabe dans le fait de tirer des jugements d'après les textes. Donc on va donner une pratique, donner des certains textes que, voilà, selon la lecture grammaticale du hadith ou du verset, le jugement peut changer. On va donner des cas particuliers comme ça. Vous allez comprendre facilement, Inch'Allah. Et soit dans l'explication des versets coraniques ou dans les hadiths. Parce que ça s'applique sur les deux. On va donner des cas dans le Coran que voilà, en lisant de cette façon, on peut déduire ça. même verset. On peut le lire d'une autre façon, on peut déduire un autre jugement. Pourtant, c'est le même verset. Mais c'est juste la langue arabe qui influence sur le jugement. On va donner des cas réels. Donc ça, c'est les quatre points, inshallah, qu'on va les traiter. Et comme d'habitude, je disais, nos assises, alhamdoulilah, chaque fois, on les cite sous forme question-réponse, et je ne veux pas que ce soit une khutbah de Jumu'ah, c'est moi qui parle, tout le monde entend, et après on fait l'acte de l'Isha, chacun chez lui, non. On essaie d'échanger pour un petit peu profiter. Je disais, ça c'est une façon parmi les façons d'apprendre la science. Pas forcément la première méthode que souvent on entend, mais aussi une deuxième méthode qui est sous forme question-réponse, comme ça pour que tout le monde profite. Donc la première question, et pour le premier point qu'on va aborder, c'est quels sont les avantages en apprenant la langue arabe? Qui peut me lister, pas un, je veux plusieurs, les avantages d'apprendre la langue arabe? On a beaucoup d'avantages en apprenant la langue. Pourquoi? Parce que si on ne sait pas les avantages, on ne sait pas pourquoi on apprend la langue arabe. Parce que certains, ils essaient d'apprendre la langue arabe, voilà, parce que ils l'ont demandé, ou parce que ses parents l'obligent, ou parce que son collègue lui demande, viens, on assiste. Mais il n'y a pas l'intérêt. Et c'est une réalité que beaucoup de gens ne connaissent pas. Pourquoi il apprend la langue arabe? Donc, sur l'awwal, هو عبارة عن طرح المسألة الأولى والمبحث الأول هو ما هي الفوائد تعلم اللغة العربية؟ من يذكر لنا الفوائد الخاصة بهذا الموضوع؟ هيا إلواني حسن. Quels sont les avantages en apprenant la langue? Ça, c'est un premier. Non, pas ça. Un autre avantage. On va citer 5. Celui qui arrive à citer ces 5, il aura un bon livre. Mohamed, toujours tu prends des livres. Vas-y, toi, ta chère. Taïeb. Et ça fait partie de la première réponse. Il a dit le feu, c'était un outil pour comprendre la parole d'Allah et la parole du prophète. Ça, c'est le premier avantage. Mohamed. Je prends des avantages réels, pratiques. Non. Ça fait partie du premier avantage. Le fait que de comprendre. Non. La salat, on récite en arabe. Pas forcément, c'est pas un avantage que vraiment. C'est bien. C'est recommandé de faire la prière à. Tout ce qui concerne la paix en langue arabe, bien sûr. Mais ce n'est pas vraiment ce que j'attends. Non. Ça, c'est le troisième point. On va aborder le jugement d'apprendre la langue arabe. Ça, c'est un autre point. Naam Salah. Non. Un autre avantage. D'accord, ça c'est. On verra, on va parler sur ça. Nam. Redis? Non, mais la question c'est pourquoi on apprend la langue arabe? Certainement pour comprendre le Coran et le Hadith. Pourquoi? Parce que le Coran est révélé et fait descendre avec la langue arabe, le Hadith il est en langue arabe, donc pour comprendre ces deux choses, qui est la référence du musulman, oui ou pas? C'est la référence, à quoi on revient à qui? Au Coran et au Sunna. Mais il faut les comprendre, pour les comprendre, donc on apprend la langue. Donc ça c'est le premier avantage. Autre avantage, c'est tout. Vous savez que ça. Pas autre chose. Non. D'accord, mais ça, ça fait partie du premier point. Il reste 4. Aïe. Et celui qui n'apprend pas la langue arabe. D'accord, on verra ça. Aïe. Je sais. Non, moi je parle de Dunia. Moi je vais dans Dunia, c'est quoi les avantages? Qu'un seul point. Apprendre la langue arabe et pour comprendre combien ça me. Pas forcément. Je peux être un converti, que je ne connais pas du tout la langue arabe, je connais ma religion en français, et je ne peux pas attendre dans les états. Aïe, quoi d'autre? Non. On apprend le dogme. Pas forcément. Un converti, je ne l'oblige pas. Après la tête session d'apprendre la langue arabe, je ne l'oblige pas. Une cause de transmission. C'est un deuxième avantage. Après, je vais les lister. C'est un deuxième avantage, oui. Ihya al-lugha al-arabiyya al-fusha. Revivre cette langue arabe. Parce que si on ne l'apprend pas, une génération après une génération qui ne sont pas appris la langue arabe, ou ça va. Donc, pour comprendre, c'est revivre cette langue arabe. C'est un deuxième avantage. C'est pour ça qu'on l'apprend. D'une génération, elle transmet une autre génération. Et c'est le cas. Ça fait 14 siècles, alhamdoulilah, la langue, elle est comme les Arabes l'ont parlé. Il n'y a pas de changement, etc. Bien sûr, il y avait des certains vocabulaires qui sont rentrés dans la langue arabe, certainement, ça c'est on n'est pas. Mais je parle à la langue arabe en elle-même, elle est toujours, c'est la même. Celui qui apprend la langue arabe en 1431, c'est la même la langue arabe qu'elle existe même avant le prophète, à l'époque des Arabes, à l'époque même de Ismaïl, notre prophète Ismaïl. C'est la même langue arabe. Non. Donc ça c'est un deuxième avantage. 3. C'est pas un avantage, mais c'est un bien ou c'est un bien. Mais c'est pas vraiment un avantage réel ou. Aïe. Parce qu'on peut trouver l'équivalent avec un autre mot, avec une autre langue, mais peut-être en expression c'est pas la même. Même une autre langue, je peux déterminer, mais je vais faire. J'ai parlé une heure pour exprimer un mot. Mais je vais arriver à l'objectif. C'est pas l'avantage. Aïe. Tout le monde réfléchit. Ah, vous êtes fatigué, hein? Pas forcément. Aïe. Je vais lister. On va commencer par le premier. Fahm, Kitab Allah, wa Sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le premier avantage est certainement, c'est comprendre le Coran et la parole d'Allah et la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certainement. Parce que les deux sont révélés en langue arabe. Donc, on ne peut pas le comprendre autrement, sauf avec la langue avec laquelle ils étaient révélés. Deux, qui est Iqamatul lisan ala lisan al-arabi. Iqamatul lisan ala lisan al-arabi. Deuxième avantage, c'est prononcer la langue arabe comme la langue arabe d'origine. Parce que si on n'apprend pas la langue arabe, comment on peut parler avec la langue arabe? Donc ça permet de vraiment mettre en pratique la langue arabe. Troisième avantage. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. صيانة اللسان من اللحم. Troisième avantage, ne pas commettre des erreurs. N'est-ce pas? Parce que quand on apprend l'arabe, une personne qui connaît l'arabe, s'il parle, il va faire des dégâts. Je vous le dis, c'est pas qu'il fait des erreurs, il peut faire des dégâts. Surtout s'il prononce un hadith, ou il prononce un verset, ou il essaie de comprendre un hadith, ou pour comprendre un verset. Donc il peut faire des dégâts. Donc c'est éviter la langue de faire des erreurs. Quatrième, إحياء اللغة العربية, revivre la langue arabe, comme on avait expliqué. Et le cinquième, صيانة البنان, c'est-à-dire éviter la main de faire des erreurs dans l'écriture. Pourquoi? Parce que certains qui ils savent comment parler, ils connaissent comment parler, mais peut-être ils ne peuvent pas écrire. Et on a c'est le contraire. On trouve même des étudiants de talab ilm qui ont ce défaut. Soit ils maîtrisent, c'est-à-dire qu'ils parlent correctement la langue arabe, mais en pratique, d'écrire ce qu'il a prononcé, il va faire des erreurs. Ou le contraire, il y en a qui savent écrire, tu lui récites un paragraphe, il va l'écrire. Mais est-ce qu'il a la facilité de parler la langue arabe? Ça, c'est une autre chose. Donc, taqwimu al-banan, donc mettre et éviter de faire des erreurs, surtout en écriture. Et le sixième, si on peut considérer comme un avantage, les savants, ils ont considéré la langue arabe comme une condition, parmi les conditions d'être un savant qui peut donner des avis ou faire un effort dans la législation. Soit dans At-Tafsir, dans la parole d'Allah, dans l'exégèse du Coran, soit dans l'ijtihad, c'est-à-dire faire un effort ou donner un effort dans la législation. Pour atteindre un niveau d'un savant qui se permet à comprendre le Coran, je répète, de comprendre le Coran, ce qu'on appelle al-mufassir, celui qui explique le Coran. Parmi ces conditions, qui doit maîtriser la langue arabe. Et aussi, al-alim, al-mujtahid, un savant qui a la capacité de donner un effort ou un avis dans la législation, certainement parmi ces conditions, c'est la maîtrise de la langue arabe. Donc ça c'est un point à connaître et à savoir, c'est-à-dire, on ne peut pas avancer ou arriver à ce niveau sans maîtriser la langue arabe. Donc, ça c'est les cinq avantages qu'on peut tirer ou qu'on a appris et qui sont les avantages d'apprendre la langue. Qui peut nous répéter ces cinq? Aïe. Comme ça, on passe au deuxième point. Man. Mohamed. Comprendre la parole d'Allah et la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. Na'am. Éviter les erreurs en parlant. De ne pas oublier ou revivre la langue arabe. Les tirages. Apprendre, on avait dit, l'écriture. Éviter des erreurs dans l'écriture. Na'am. Et le cinquième, Ahsant, iqamatu al-lisan 'ala al-lisan al-arabi. C'est vrai de ne pas commettre des erreurs, mais surtout aussi s'habituer ou habituer la langue à prononcer ou à parler la langue arabe. Ça c'est un point important et c'est un avantage parmi les avantages d'apprendre la langue arabe. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si on revient au premier point, le fait que pour comprendre la parole d'Allah et la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça on le trouve en pratique. Si on revient, quels sont parmi les grands tafsirs du Coran, quels sont parmi les grands livres, les grands ouvrages ou les bonnes références dans l'exégèse du Coran? Qui connaît? Al-Imam al-Tabari, Ibn Jarir al-Tabari. Si on regarde dans l'exégèse du Coran de l'imam al-Tabari ou d'Ibn Jarir, on trouve dans l'explication des versets coraniques, souvent, il rapporte l'explication
des savants de la langue arabe. Ils citent qu'est-ce qu'ils ont des sahaba, et après tabi'in, 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 après les savants. Et parmi ces savants, il insiste, il cite qu'est-ce qu'il a dit l'imam Sibawai, qu'est-ce qu'il a dit l'imam Akhfash, qu'est-ce qu'il a dit l'imam Al-Kisa'i, et autres. Pour dire que même dans l'explication du Coran, on a besoin de comprendre la langue arabe. Pourquoi? Même si on avait dit dans un autre endroit, on a dit la compréhension du Coran, elle se fait en 4 degrés. Quels sont ces 4 degrés? Comment on peut interpréter le Coran? Comment on peut expliquer les versets coraniques? On a dit qu'il y a 4 degrés. Tafsir al-Qur'an ibn al-Qur'an. C'est le plus haut degré de l'explication du Coran. On trouve des savants, carrément, ils ont expliqué le Coran avec le Coran. Un verset dans un surat, s'ils veulent expliquer, et avec leur science qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont la capacité d'expliquer ce verset qui est dans cet endroit par un autre verset dans un autre endroit. Le Coran, le Coran. Et le ulama, quand c'est ça, c'est le plus haut degré d'explication du Coran. Et ça, parmi les savants qui sont intéressés, on trouve l'imam Shaqiq al-Rahimahullah, Abu al-Bayyan, c'est un référence dans ça. S'il veut revenir à l'explication du Coran avec un autre verset, qui revient de Tafsir Shaqiq al-Rahimahullah, Abu al-Bayyan. Aussi, donc deuxième degré d'explication du Coran, c'est expliquer ou donner l'explication d'un verset du Coran par As-Sunnah. D'où l'intérêt d'apprendre à Sunna, et d'où l'intérêt d'avoir une science dans le hadith. Parce que les gens disent, pourquoi on parle sur Sunna, pourquoi on étudie Sunna? Parce que cette Sunna, elle peut t'aider à comprendre la parole d'Allah. C'est pour ça qu'on néglige pas l'apprentissage de la Sunna du Prophète. Le troisième degré, comprendre le Coran par avant ça. Avec la parole des sahaba. Parce que des fois, les sahaba, ils ont compris, ils ont interprété le Coran. Et ça, c'est un troisième degré d'apprentissage ou un troisième degré d'explication du Coran. Le quatrième degré, qui est avec la langue arabe. Avec les règles de la langue arabe. C'est pas avec la langue arabe. Parce que le Coran avec le Coran, c'est de la langue arabe. Le Coran avec Sunna, c'est de la langue arabe. Le Coran avec Sahaba, avec la langue arabe. Mais le Coran dit al-Arabiya, qui signifie avec les règles de la langue arabe. Des fois, on trouve ni l'explication du verset par un autre verset, ni l'explication du Coran par la parole avec la parole du Prophète sallam, ni l'explication d'un verset par une parole d'un Sahabi. Ni, donc qu'est-ce qui nous reste, qu'est-ce qu'ils font? Ben, essayer de comprendre le Coran avec la langue arabe, avec les règles de la langue arabe. Et j'ai posé une question avant, j'ai dit, est-ce que le prophète a expliqué tous les versets coraniques? J'ai dit tout. Mohamed? Non. Qui nécessitait une explication. Non, Mahsant, on avait dit, si on revient, il peut nous poser une question, est-ce que le Coran est expliqué complètement par le professeur? Est-ce qu'on peut très vite tafsir à la c'est pas tafsir Ibn Kathir, tafsir al-Tabari, tafsir al-Baghawi, tafsir al-Bayan ou autre chose. Est-ce que le prophète a expliqué complètement verset par verset? La réponse est non. Pourquoi? On a dit le Coran là, le Coran était révélé ou était fait descendre par la langue arabe. Donc Sahaba, à l'époque du Prophète, ils comprenaient le Coran comme ils l'ont compris. Avec quoi? Avec la langue arabe. Mais les versets qui nécessitaient une explication, le prophète a expliqué. Donc c'est pour ça qu'on trouve pourquoi on avait besoin de comprendre le Coran avec la parole de comprendre le Coran avec la parole du Prophète sallam. Et pourquoi ça nécessitait aussi de comprendre le Coran avec la parole des Sahaba et le quatrième degré avec les règles ou avec la longueur. Donc vous remarquez, ça c'est le premier point, c'est pour ça, quand on dit les premiers avantages, c'est faire mal Qur'an ou Sunnah. Ça englobe tout ça. Et la preuve, dans les livres de jurisprudence, dans les livres d'exagère du Coran, on trouve ce qui explique et rapporte. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Sibaoui, tous les savants dans la langue arabe. Donc, on remarque la nécessité d'apprendre la langue arabe pour réaliser surtout le premier point. Donc ça, c'est en gros, sans entrer dans le détail, parce que je ne veux pas qu'on rentre dans le détail, mais ça, au moins, c'est les 5 avantages d'apprendre la langue arabe. Et j'espère que tout le monde a compris. Et là, on pourra dire pourquoi on apprend la langue arabe. Le deuxième point, donc je vais faire une lecture, j'essaie de regrouper certaines paroles des savants, 25 paroles de savants concernant, là on va aborder le deuxième point, le mérite et la récompense de celui qui, ou la valeur même, c'était la valeur de l'apprentissage et la connaissance de la langue arabe. Donc je vais essayer de citer, donc je vais les lire en premier temps avec la langue arabe, ensuite, j'essaie de revenir un par un, au maximum selon les traductions qu'on a, de revoir les textes. Et ça, c'est tiré du livre, celui qui veut revenir à la source, Al-Ta'liqat al-Jaliya ala muqaddimati matn al-Ajrumiyya de Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, l'auteur du livre qui a réalisé, il a fait un tahqiq, une notification, ou même il a fait un commentaire sur le livre, il a fait une introduction du livre, et par laquelle, avant qu'il commence à donner à citer ou transcrire le livre, il a fait une introduction, dedans il a parlé sur les avantages et le mérite d'apprendre la langue arabe, et on va écouter Inch'Allah ta'ala. Donc celui qui veut revenir, qu'il trouve, et je conseille ceux qui ont un niveau dans la langue arabe, et s'ils souhaitent revenir, bien sûr, certainement s'ils apprennent la langue arabe, qui commencent par ce livre, Matn al-Ajrumiyya, comme certaines qui sont assis avec nous, ils connaissent, ils sont en train de le faire, alhamdoulilah, qu'ils reviennent à ce livre, Al-Ta'liqat al-Jaliya, à la Sharhi al-Muqaddimati al-Ajrumiyya, de Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, qui est un livre très important, et dedans, il y a beaucoup d'avantages et d'intérêts dans ce livre. Donc je commence à citer un par un, et je lis les 25 paroles, parmi les paroles qu'on a essayé de regrouper, 25 paroles des savants, depuis à l'époque de Omar ibn Khattab, jusqu'au savant qu'on connaît actuellement, inchallah. Donc je vais lire l'introduction, qui fait partie de ce qui traite le deuxième point. قال المؤلف رحمه الله إن اللغة العربية هي اللغة التي اختارها الله لهذا الدين لا يمتري أحد في أن اللغة العربية وعلومها تنزل من علوم القرآن ومعارفه منزلة اللسان من جوارح الإنسان ولا نبعد كثيرا إذا قلنا بل منزلة القلب من الجسد لأنها لسان الإسلام الأسمى بها أنزل القرآن العظيم قال جل وعلا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون قال ابن كثير رحمه الله تعالى لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات إلى آخر كلامه رحمه الله وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم إن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به ولم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان صارت معرفته من الدين وأقرب إلى إقامة شعائر الدين. انتهى كلامه رحمه الله. وقد قال الله عز وجل في وصف كتابه قرآنا عربيا غير ذي عوج، فوصفه بالاستقامة كما وصفه بالبيان في قوله ذي لسان عربي مبين، وكما وصفه بالعدل في قوله وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وقال أبو إسحاق الزجاجي سمعت أبا العباس المبرد يقول كان بعض السلف يقول عليكم بالعربية فإنها المروءة الظاهرة، وهي كلام الله عز وجل وأنبيائه وملائكته، إلى آخر كلامه رحمه الله. وللنحو أهمية، إذ إن جميع العلوم لا تستغني عنه، وحري بطالب العلم أن يتعلم قواعد الكلام العربي، وأن يفر من أن يلحن في كلامه. وكان العرب يفرون من الوقوع في اللحن، ويحثون على تعلم العربية. وقد عقد ابن عبد البر رحمه الله في كتابه بهجة المجالس وأنس المجارس بابا في اجتناب اللحن وتعلم العربية وذم الغريب من الخطاب، أورد فيه أخبارا وأشعارا حول هذا الأمر، وصدره بقول عمر رضي الله عنه حينما كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أما بعد فتفقهوا في السنة وتعلموا العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي. وقال أيضا رضي الله عنه تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وقال عبد الله بن مبارك اللحن في الكلام أقبح من آثار الجدري في الوجه. وقال شعبة مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو كمثل البرنس لا رأس له. وقال الأصمعي رحمه الله إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأسند الخطيب عن الرحبي قال سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر صار الحديث بالفارسية. وقال ابن جني إن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها وحاد عن الطريقة المثلى إليها فإنما استهواه واستخف حلمه ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة التي خوطب الكافة بها. وقال الشافعي رحمه الله من تبحر في النحو اهتدى إلى كل العلوم. وقال أيضا رحمه الله لا أسأل عن مسألة من مسائل الفقه إلا أجبت في عنها من قواعد النحو. وقال أيضا رحمه الله ما أردت بها يعني العربية إلا الاستعانة على الفقه. ولإسحاق بن خلف قصيدة يذكر فيها فضل النحو، يقول فيها النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تعظمه إذا لم يلمس، فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسني. لحن الشريف تزيله عن قدره وتراه يسقط من لحاظ الأعين، وترى الوضيع إذا تكلم معربا نال المهابة باللسان الألسني. ما ورث الآباء عند وفاتهم لبنيهم مثل العلوم فاتقني، فاطلب هديت ولا تكن متأبيا، فالنحو زين العالم المتفنن، والنحو مثل الملح إذا ألقيته في كل صنف من طعام يحسني. فهذه بعض الآثار التي سمعناها من كتاب أو مقدمة التعليقات الجلية على شرح المقدمة أو الآية الرومية، ذكر فيها آثارا والحمد لله أفاد وأجاد. وإضافة على ذلك يعني تكملة لهذه الآثار الواردة، ذكر أيضا الشيخ ووجدت هذه الفوائد نافعة من كتاب مراتب طلب العلم وطرق تحصيله للشيخ رسلان حفظه الله تعالى فذكر فيه أهمية تعلم اللغة العربية، وأقرأ منها. فقال حفظ الله تعالى الشيخ رسلان جزاه الله خيرا، ووجه الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله طلاب الحديث إلى درس اللغة والأدب فقال: وعندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة حتى يحسن فقه الحديث، وهو كلام أفصح العرب وأقومهم لسانا صلى الله عليه وسلم. ومن قبل حظ على ذلك علماء رحمهم الله ووجهوا إليه. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله، وهو العلم بلسان العربي ومواقع كلامها وسعة لغتها واستعارتها ومجازها وعموم لفظها مخاطبتها ومخصوصه وسائر مذاهبها لمن قدر فهو شيء لا يستغنى عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق أن يتعلموا السنة والفرائض واللحن، يعني النحو، كما يتعلم القرآن. وساق أبو عمر بسنده عن أبي عثمان قال: كان في كتاب عمر رضي الله عنه تعلموا العربية. وعن عمر بن زيد قال: كتب عمر إلى أبي موسى: أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب ولده على اللحن. وقال الشعبي: النحو في العلم كالملح في الطعام. وقال شعبة: مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو مثل برنس لا رأس له. وقال الشافعي رحمه الله: من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يسن نفسه لم يسن علمه. ودونك علماء الإسلام ومرشد الأنام من منهم لم يتضلع باللغة نحوا وصرفا وشعرا ونثرا حتى أصبح فيها حجة ومرجعا يرجع إلى قوله ويصار إلى رأيه. وقال محمد بن حسن الزعفراني: ما رأيت أحدا قط أفصح ولا أعلم من الشافعي، كان أعلم الناس وأفصح الناس، وكان يقرأ عليه من كل الشعر فيعرفه ما كان إلا بحرا. وعن الربيع بن سليمان قال: سمعت ابن هشام صاحب المغازي يقول: كان الشافعي حجة في اللغة. وقال إبراهيم الحربي: رأيت أحمد بن حنبل أن الله جمع له علم الأولين والآخرين. وعن أحمد بن سعيد الرازي قال: ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بفقه ومعانيه من أحمد بن حنبل. وعن إسحاق بن راهويه رحمه الله قال: وكنت أجارس بالعراق أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأصحابنا، وكنا نتذاكر الحديث من طريقين وثلاثة، فيقول يحيى من بينهم وطريق كذا، فأقول: أليس قد صح كذا بإجماع منا؟ فيقولون: نعم. فأقول: ما تفسيره؟ ما فقه؟ فيقيفون كلهم إلا أحمد بن حنبل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يزال من إبان صغره مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد وختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمته مجالس الذكر وسماع الحديث والآثار، وأقبل على الفقه وقرأ في العربية، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهمه وبرغ فيه النحو. وقال أبو حيان شيخ النحاة: لما اجتمع بابن تيمية ما رأت عيناي مثله. وأورد ابن هشام رحمه الله أوجه القراءة في قوله تعالى: إن هذان لساحران، فأثبت اثنتين، ثم قال: والثالثة إن بالتجديد هذان بالألف، وهي مشكلة لأن إن المشددة يجب إعمالها، فكان الظاهر الإتيان بالياء، وقد أجيب عليها بأوجه منها. إنه لما كان الإعراب لا يظهر في الواحد وهو هذا، جعل كذلك من التثنية ليكون المثنى كالمفرد لأنه فرع عليه. واختار هذا القول الإمام العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، وزعم أن بناء المثنى إذا كان مفرده مبنيا أفصح من إعرابه. قال: وقد تفطن لذلك غير واحد من حذاق النحاة. وأخيرا وختاما، قال ابن هشام الذي قال هذا القول في شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي قال فيه ابن خلدون رحمه الله: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه. وقال فيه أيضا: إن ابن هشام على علم جم يشهد بعلو قدره في صناعة النحو، وكان ينحو في طريقته منحاة أهل الموصل الذين اقتفوا أثر ابن جني واتبعوا مصطلح تعليمه، فأتى من ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته واطلاعه.
Donc là, je termine les 25 avis ou les paroles des savants qui citent l'importance de la langue arabe. Et j'espère que ceux qui connaissent la langue arabe, même si on va traduire certains passages, ils ont compris que ces textes qu'on vient de lire, c'est de l'or, c'est un trésor. Celui qui veut revenir et voir et connaître l'importance de la langue arabe, qu'il revient à ces paroles des grands savants. Et on a écouté depuis Ibn Omar ou Omar ibn Khattab, qui est le khalifa, depuis lui, ce qu'il a écrit à Abu Moussa al-Ash'ari, qu'est-ce qu'il a demandé à faire. Et tout à l'heure, Inch'Allah, juste par la suite, je vais traduire ce qu'il avait dit, et les derniers textes que je viens de lire, de l'importance d'apprendre la langue arabe. Et je redis, celui qui connaît la langue arabe, j'espère que ces passages, ça lui reste, Inch'Allah, gravé. Donc par la suite, je vais commencer, Inch'Allah, à traduire parmi ces passages qui citent ou qui incitent à apprendre la langue arabe. Donc je vais commencer par ce qu'il a orienté à Cheikh Ahmed Shakir. Cheikh Ahmed Shakir, parmi les savants contemporains qui spécialisent dans le hadith, et c'est un hadith, il est connu par les savants du hadith, qu'est-ce qu'il a cité, qu'est-ce qu'il a conseillé ses élèves qui sont en train d'apprendre le hadith. Qu'est-ce qu'il a dit Cheikh Ahmed Shakir? Donc je traduis juste le passage qui peut être de l'ouvrage du Cheikh Al-Islam Hafidhahullah. ووجه الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله طلاب الحديث إلى درس اللغة والأدب فقال. الشيخ أحمد شاكر إلى orienté ses élèves qui sont dans le hadith d'aller dans les cours et assister les cours de la langue arabe. Il a dit par la suite: وعندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة. Donc il dit: d'après moi, il est intéressant, il est important pour moi et surtout pour l'élève ou un demandeur de science dont la science du hadith du prophète sallam qu'il assiste beaucoup au cours de la langue arabe. Hatta yahsuna fiqh al-hadith, afin qu'il arrive à comprendre ou avoir une jurisprudence sur les hadiths. Parce que certainement ce n'est pas suffisant d'apprendre le hadith. Mais ce qui est important par la suite, c'est comprendre le hadith, et par la suite, cela, ça permet de déduire un jugement dans la législation. Donc c'est pour ça que Cheikh Ahmed Shakir, il a incité ses élèves, et surtout d'assister beaucoup aux cours d'arabe, pour qu'ils comprennent le hadith. Et c'est pour cela dit, « وَهُوَ كَلَامُ أَفْصَحِ الْعَرَبِ وَقُوَمِهِمْ أَلِسَانًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ. » Un deuxième texte, « قَالَ أَبُو عُمَرْ ibn عَبْدِ الْبَرْ » Ibn Abd al-Barr, parmi les grands savants malikites, celui qui veut revenir savoir qu'est-ce qu'ils disent al-Malikiyya sur un sujet, qu'il revient aux ouvrages d'Ibn Abd al-Barr, et par ces deux ouvrages qui sont connus, al-Tamhid et al-Istidkar. Al-Tamhid ou al-Istidkar d'Ibn Abd al-Barr. Ces ouvrages
c'est de l'or. Celui qui veut revenir tout, celui qui prétend qu'il est maliki, on lui dit viens, est-ce qu'Ibn Abdelbar le cite dans Tamid al-Sidqa? Donc Ibn Abdelbar, dans ses ouvrages, dans notre ouvrage, il dit une parole aussi, وَمِمَّا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى فَهْمِ الْحَدِيثِ. Et les moyens par lesquels on peut comprendre le hadith, remarquez, ces savants du hadith, ils ne se sont pas limités à connaître le hadith, c'est-à-dire soit sa chaîne de transmission, soit le contenu du texte, c'est-à-dire le hadith en lui-même. Ils ne se sont pas limités à ça, mais inciter les élèves et les savants surtout d'apprendre tous les moyens qui permettent de comprendre ce hadith. Et c'est pour ça qu'Ibn Abdelbar il a dit وَمِمَّا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى فَهْمِ الْحَدِيثِ. Et parmi les choses avec lesquelles aide à comprendre le hadith, مَا ذَكَرْنَاهُ, ce qu'on avait cité, مِنَ الْعَوْنِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَهُوَ, et qui aide aussi à comprendre la parole d'Allah, c'est quoi? Il a dit الْعِلْمُ بِلِسَانِ الْعَرَبِ, la science de la langue arabe, avoir une science de la langue arabe. ومواقع كلامها وسعة لغتها واستعاراتها ومجازها وعموم لفظ مخاطبتها ومخصوصه وخصوصه وسائر مذاهبها لمن قدر فهو شيء لا يستغنى عنه. Il a dit parmi les choses pour comprendre la langue arabe, pour comprendre le hadith et la parole d'Allah, c'est avoir une science dans la langue arabe. Et il cite quelles sont ces sciences de la langue. C'est pour ça qu'il a dit tout ce qui est mawaqi'a kalamiha wa si'ati lughatiha wa si'aratiha wa majaziha wa 'umum lafdhi mukhatabatiha wa makhsusihi wa khususihi wa sa'ir madahibiha liman qadira fa huwa shay'un la yustaghna 'anhu. Il dit la langue arabe et tout ce qui est dérivé de la langue arabe. Pourquoi? Parce que inchallah, pas aujourd'hui peut-être, si on aura le temps, On va aussi définir c'est quoi la langue arabe en elle-même. Parce qu'il y en a, ils pensent qu'à avoir ou comprendre les lettres alphabétiques de la langue arabe, c'est la langue arabe. Ou lire, avoir la capacité de lire un texte, s'ils maîtrisent la langue arabe. On parlera, Inch'Allah, et on va parler de toutes les sciences qui composent la langue arabe et par lesquelles on doit commencer. Wa qala Umar ibn al-Khattab. C'est la parole de Omar Khattab, qu'est-ce qu'il dit? Il dit كان يكتب الى الافاق ان يتعلم السنه والفرائض واللحن يعني النحو كما يتعلم القران. À l'époque de Omar Khattab, et lui-même, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il envoyait les lettres dans les pays, qu'est-ce qu'il leur demandait dans la lettre qu'il envoyait au gouvernement? Il leur demandait qu'il apprend à Sunna et Al-Fara'ib, la science qui traite l'héritage. Ça, c'est une science à maîtriser. Et la troisième chose, Al-Lahn, et qui signifie Al-Nahw, et qui signifie l'analyse grammaticale, on résume par la langue arabe. On ne rentre pas dans le détail. Remarquez, Omar al-Khattab, quand il envoyait des lettres, il leur demandait pas autre chose. Bien sûr, il demandait autre chose qui concerne la religion, mais il insistait et surtout il demandait que les gens apprennent à Sunna et la science qui concerne l'héritage et la langue arabe. Si ce n'était pas utile, pourquoi Omar ibn al-Khattab, il envoie à son époque? À son époque, il demande à apprendre la langue arabe. Et aujourd'hui, on dit quoi? Qu'est-ce qu'il dira à cette époque que malheureusement, beaucoup de gens d'origine musulmane, où leurs parents, ils maîtrisent la langue arabe, mais soit avec leurs enfants, soit avec leurs proches, soit à l'école, soit à l'extérieur, même entre nous des fois, on maîtrise la langue arabe, mais on parle pas avec la langue arabe. Et Inch'Allah, quand on arrive au jugement d'apprentissage de la langue arabe, on va citer la parole de certains savants, quel est le jugement de celui qui maîtrise la langue arabe et il ne le met pas en pratique ou il n'utilise pas pour parler la langue arabe. Donc ça c'est le conseil et l'attestement de Omar ibn al-Khattab. Aussi un autre, قال Abu Omar بسنده عن أبي عثمان قال كان في كتاب عمر رضي الله عنه تعلموا العربية.
Dans ces lettres qu'il a envoyées, parmi les choses qui c'était dans les lettres, on s'est vu juste qui concerne la langue arabe, il disait, l'expression elle était écrite dans les lettres,
تعلموا العربية.
Apprenez la langue arabe. Un ordre,
تعلموا اللغة العربية.
Et aussi, un autre texte,
وعن عمر بن زيد قال كتب عمر إلى أبي موسى.
La même chose, عمر بن خطاب aussi, il envoyait parmi à son époque, les gouverneurs qui étaient à son époque, à
Abi Moussa.
Il disait Amma Ba'd. Et ça implique que ce qu'il disait juste au début de la lettre. Pourquoi? Parce que souvent, quand on commence par exemple, et même le Prophète, quand il parlait, il commence, il fait une introduction, Inna alhamdulillah, Inna hamadou, Inna sta'in, Inna staghfir, jusqu'à la fin. Et même dans Khutbah al-Jumu'ah, par exemple, pour faciliter la compréhension, Amma Ba'd. Ensuite, on aborde le sujet. C'est souvent, c'est ça la méthodologie, quand on fait une assise. Quand on parle, on fait un discours. C'est, on fait l'introduction, ensuite, il est préférable de dire « Amma Ba'd », ensuite on attaque le sujet. Omar al-Khattab, on remarque qu'il a dit « Amma Ba'd », qu'on dit juste au début. Qu'est-ce qui commence ?«
Fatafaqahu fi sunnah wa tafaqahu fi al-arabiya ».
Apprenez votre religion et apprenez votre langue. Regardez directement après l'apprentissage. Il demande un ordre où il conseille, il recommande d'apprendre la religion. Par la suite, directement,
وَتَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةِ.
وَعَنِ ابْنُ عُمَرَ, aussi un autre texte.
وَعَنِ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ وَلَدَهُ عَلَى اللَّحْنِ.
ابن عُمَرَ رضي الله عنه. Et qui le fait parmi nous? Il éduquait son enfant quand il faisait al-lahm. Et l'ahm, en réalité, si on rentre dans le détail, c'est les erreurs dans la langue arabe. C'est-à-dire quand il fait une erreur dans la langue arabe, ce qu'on appelle al-lahm. Même dans la lecture du Coran, ou même en parlant la langue arabe, quand on fait une erreur, soit on dit il a fait un khata, ou on dit lahana fi kalamihi. Il a commis des erreurs dans la langue, dans sa prononciation. Et Ibn Omar, qu'est-ce qu'il faisait? C'est pas il rigolait, mais Mohamed, qui parmi nous? Je dis pas, je demande pas à tout le monde qui doit faire ça. Ou directement dès il prononce un mot, boum, ce qu'elle me fait. Oh là là, Abdallah. Non. Mais avec une sagesse, avec l'âge de l'enfant, etc. Pourquoi? C'est pour l'habituer. C'est juste pour que l'habitué apprenne à parler la langue arabe. Comme ça, si des petits, ils commencent à le parler dès les petits, il n'aura pas une difficulté d'apprendre la langue arabe quand ils l'ont dit, Inch'Allah. Donc ça, ce qu'il faisait Ibn Omar radiallahu anhu. Wa qala al-Sha'bi, an-nahwu fil 'ilmi kal-milhi fil ta'am. Il a dit, la langue arabe dans la science, ou la langue arabe, ou l'analyse grammaticale, je simplifie par le terme la langue arabe, comme ça pour simplifier la compréhension. La langue arabe dans la science, c'est comme le sel dans la nourriture. Hassan, je te prépare un plat, mais sans sel.
C'est la même chose, le même sens. Regardez, il a donné un sens pour comprendre la valeur de la langue arabe. C'est pas apprendre l'arabe pour la langue arabe, non. Il y a un intérêt. Et c'est pour ça qu'il a donné, il a fait une analogie ou donné un exemple. L'importance de la langue arabe dans la science, c'est comme le sel dans la nourriture.
Le sel, al-milh.
Wa qala Shu'bah, mathalu alladhi yata'allamu al-hadith wa la yata'allamu an-nahw ka mathali burnusin la ra's lah.
Celui qui apprend le hadith, mais il n'apprend pas la langue arabe, c'est comme un burnus, il n'a pas de tête. C'est comment traduire le burnous? C'est un vêtement propre aux Arabes, peut-être. Comment il s'appelle là? Lui-même, en complet, comment il s'appelle?
On l'appelle burnous.
Le burnous, je ne sais pas, regarde, voilà. Ah, voilà la langue arabe, voilà. Le burnous, c'est le burnous. Allah nous ta'ala.
قال الشافعي رحمه الله من حفظ القرآن عظمت قيمته ومن طلب الفقه نبل قدمه ومن كتب الحديث قويت حجته ومن نظر في النحو ورق طبعه ومن لم يصن نفسه لم يصنه علمه.
لا je ne traduis pas tellement c'est trop beau, je ne traduis pas, je désolé.
قال محمد بن الحسن الزعفراني ما رأيت أحدا قط أفصح ولا أعلم من الشافعي. Regardez ce qu'il dit Mohammed ibn Hassan al-Zahfarani à l'époque, ou qu'est-ce qu'il dit sur l'imam al-Shafi'i rahimahullah. C'est pour ça, tous les textes que je cite, ça traite les quatre, c'est-à-dire les califs, ça traite, c'est des paroles des califs, c'est les paroles qui concernent les savants de quatre écoles, ça, et en descendant, tout, qu'est-ce qu'il dit sur l'imam al-Shafi'i. Je n'ai pas vu je n'ai jamais vu une personne plus éloquent, c'est ça? Absahou, plus éloquent et qui a plus de science que l'imam Shafi'i. Kana a'lam an-nasi wa afsah an-nas. Il était parmi les gens qui avaient plus de science et afsah an-nas. Ils avaient l'éloquence. وَكَانَ يَقْرَأُ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ الشِّعْرِ. Pourquoi il a dit ça? C'est quoi le... Pourquoi il a cité ça pour dire Imam Shafi'i, il a ça et ça? Et c'est quoi le rapport de la langue arabe avec Imam Shafi'i? Il dit, il lisait sur Imam Shafi'i tout type de poèmes. Et il les reconnaissait. كُلَّ الشِّعْرِ فَيَعْرِفُهُ مَا كَانَ إِلَّا بَحْرًا. Il était... Comme une mer. M-E-R. Pas mer. Hein? Pas un enseignant, mais la mer. Pour montrer, pour donner un exemple, qu'il connaissait beaucoup de poèmes. Et ça aussi, c'est un signe. Et on incite les gens d'apprendre. Hein? Les poèmes, mais de la langue arabe. C'est pas. وعن الربيع بن سليمان قال سمعت ابن هشام صاحب المغازي يقول كان الشافعي حجة في اللغة.
Et c'est vrai, parmi les choses ou parmi les caractéristiques de l'imam Shafi'i, écoutez très bien, ça c'est une faïda, parmi les caractéristiques de l'imam Shafi'i, il n'était pas que il connaissait le hadith. Non. Parmi les choses qu'il est connu, par lesquelles il est connu l'imam Shafi'i, qu'il était un argument dans la langue arabe. Il était très très puissant et très fort dans la langue arabe. C'est pour ça qu'il a dit
كان الشافعي حجة في اللغة.
C'est ce qu'il a dit. الربيع بن سليمان قال
ابن هشام dit l'imam الشافعي était un argument dans la langue arabe. وقال إبراهيم الحربي رأيت أحمد بن حنبل كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين.
Et aussi il rapporte la qualité aussi de parmi les savants Ahmed ibn Hanbal. Aussi, il disait, Ibrahim al-Harbi dit, j'ai vu Ahmed ibn Hanbal, c'est comme Allah, il a regroupé la science. Awalin et l'akhirin, comment traduire? Hein? Ulum al-Awalin et l'akhirin. Naam. Il a dit, j'ai vu qu'Ahmed ibn Hanbal, c'est comme Allah, il a regroupé la science. Disons cette génération les dernières générations et les plus anciennes générations.
وعن أحمد بن سعيد الرازي قال ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفقه بفقه ومعانيه من أحمد بن حنبل.
Je n'ai pas vu une personne. Regardez, il a cité أسود الرأس qui signifie une tête noire. Je n'ai pas vu une personne d'une tête noire plus connaisseur ou qui apprend par cœur les hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بفقه ومعانيه. Il n'y a pas meilleur que lui aussi dans la compréhension, dans la jurisprudence et avoir les sens
des hadiths mieux que Ahmed ibn Hanbal. وعن إسحاق بن راهوي رحمه الله قال كنت أجالس بالعراق أحمد بن حنبل aussi le cité un autre texte qui donne ou qui donne la valeur de أحمد بن حنبل وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يزل من إبان صغري aussi le cite un autre texte qui indique que l'imam ou شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله aussi depuis qu'il était petit il a donné l'importance ou il a appris la langue arabe. C'est pour ça qu'il a dit لم يزل من إبان صغره مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد وختم القرآن صغيرا ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية. Depuis qu'il était petit, il n'a pas cessé de faire des efforts où il a terminé le Coran où il était petit à l'âge. وختم القرآن صغيرا. Il a appris le Coran en âge en jeune, barakallahu fik, thumma ishtaghala bihifdh al-hadith. Ensuite, regardez. Ensuite, après qu'il a appris le Coran, il s'est intéressé avec le hadith, la parole du Prophète sallam, du hadith, apprentissage du hadith et leur compréhension. Wal fiqha. Ensuite, la jurisprudence, parce que ce n'est pas utile aussi, ce n'est pas utile qu'apprendre le Coran et le hadith, mais aussi avoir la jurisprudence et la science de ce qu'on a appris ou ce qui concerne le Coran et la parole du Prophète. Ensuite, après la jurisprudence, al-arabiyyata hatta bara'a fi dhalika ma'a mulazamatihi majalis adh-dhikr wa sama' al-hadith wa al-aqra. Quatrième chose, il s'est intéressé avec la langue arabe jusqu'il est devenu un génie, si on peut le dire, il est devenu un génie dans la langue arabe. Et peut-être on citera plus tard inchallah une histoire qui s'est passée avec Ibn Hibban, qui est aussi une référence dans la langue arabe, une référence, et Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah n'est pas connu que dans la langue arabe, dans toutes les sciences. Mais Ibn Hibban, il y a des savants spécialisés dans la langue arabe. Il y avait une histoire s'est passée entre Ibn Hibban, qui est une référence dans la langue arabe, et Ibn Taymiyyah, Inch'Allah. وقال ابن حبان شيخ النحاة لما اجتمع بابن تيمية ما رأيت عيناي مثله. سبحان الله. ابن حبان qui est une référence dans la langue arabe, qu'est-ce qu'il dit quand il a rencontré Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah? Il a dit mes yeux n'ont jamais vu une personne comme lui. ما رأيت عيناي مثله. Et aussi des paroles de Ibn Hisham, aussi Ibn Hisham Rahimahullah, aussi c'est une référence dans la langue arabe. Il est connu par ses ouvrages, c'est une référence. Aussi il a fait l'éloge sur Cheikh Islam ibn Taymiyyah, sur lequel Ibn Hisham, il a eu des éloges de Ibn Khaldun. Qu'est-ce qu'il dit ? Ma zilna wa nahnu bil maghribi, nasma'u annahu dhahara bi misra, alimun bil arabiyyati yuqalu lahu Ibn Hisham, anha min Sibawayh. Imam Sibawayh, c'est le plus haut niveau qu'on peut l'avoir, c'est le niveau d'Ibn Sibawayh. Lui, c'est où s'arrête l'arabe, c'est ça, on revient à Sibawayh. Le plus haut niveau que les savants le connaissent, il est connu par dans la langue arabe. Ceux qui étudient la langue arabe et ils reviennent à ses ouvrages dans des recherches, etc., il revient à lui, c'est la référence. Malgré lui qui est une référence, il est connu par les savants. Il y a aussi Ibn Hisham qui est venu d'après lui, aussi c'est une référence. Et lui c'est un maghrébin. Ibn Khaldun, quand il a entendu qu'il était dans l'Est, quand il a entendu dans l'Ouest, et surtout c'est un maghrébin, il a dit, quand il a entendu qu'il existe une personne qui s'appelle Ibn Hisham, qui est une référence dans la langue arabe, il a dit ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له Ibn Hisham. Jusqu'aujourd'hui, on est au Maghreb, on a entendu qu'il y a une personne qui est en Égypte, Bimisra Alimun Bil Arabiya, il est connu dans la langue arabe, Yuqalu Lahu, on entend, où il est appelé par Ibn Hisham. Donc il cite l'éloge d'un savant, et chaque savant il fait l'éloge à l'autre, et tous ces savants, si on remarque, ils étaient une référence, une bonne référence de la langue arabe. Je reviens aussi dans l'explication des premiers textes que j'ai lus, Et on a écouté, par exemple, ce qu'il a dit. On revient au verset. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun. Le verset qui signifie, ou dans le sens, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyan. Mustafa, c'est Mustafa. Comment on traduit Inna anzalnahu? Dans le sens, on avait révélé le Coran. Certes, on avait révélé, nous l'avons révélé en langue arabe. Dans le sens. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyan. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Kathir sur l'explication du hadith? Certes, nous n'avons révélé le Coran en langue arabe. Le verset, il est clair. Normalement, il est clair. Mais Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il dit, rahimahullah? لأن لغة العربي أفصح اللغات. Parce que, donc il justifie pourquoi il était révélé avec la langue arabe. Il a dit parce que لأن لغة العرب أفصح اللغات. Parce que la langue des Arabes est la langue la plus éloquente. C'est ça? Parmi les langues. وأبينها. Et c'est la langue la plus claire parmi les langues. وأوسعها. La plus large. Dans le sens et l'expression. Et c'est la langue, regardez les caractéristiques de la langue arabe par rapport aux autres langues. Ça, il faut savoir aussi. Pourquoi avec la langue arabe, c'est pas avec l'autre langue? Il dit, parce que la langue arabe, c'est la langue la plus éloquente par rapport aux autres langues. Ensuite, il dit, c'est la plus claire et la plus évidente. Et elle est la plus large par rapport aux autres langues. وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس. Et c'est la langue avec laquelle est plus précis dans l'expression. Et c'est vrai, ceux qui parlent la langue arabe, si on essaie d'exprimer une chose, et je vous le dis, il n'y a pas mieux de l'exprimer en langue arabe. La preuve, elle est simple. J'ai un seul mot. Si j'essaie de le traduire par n'importe quel mot, je dois et je serai obligé de faire minimum une phrase. Minimum une phrase. Remarquez, peu de mots, et ça c'est une classique par rapport aux autres langues. Des fois, et on revient même, on le constate, par pratique. Prenez un livre, par exemple, n'importe quel livre en langue arabe. N'importe quel livre. Et ramenez-moi le même livre traduit en français. C'est vrai ou pas? N'importe quel livre. Je dis, je suis une personne, il me dit que en langue arabe c'est 3 pages, et en français, et en anglais, n'importe quelle langue, c'est toujours en 3 langues, ou en 3 pages. Jamais on trouve le même. Pourquoi? Parce que la langue arabe, elle a cette caractéristique, et c'est pour ça que Allah Ta'ala a choisi de révéler le Coran avec la langue arabe. فَلِهَادَ أُنْزِلَ أَشْرَفُ الْكُتُبِ. Et c'est pour cela, les meilleurs livres, n'est-ce pas? Le Coran fait partie des meilleurs livres. Il n'y a pas que le Coran, il y a des autres livres. Le Coran est fait partie des meilleurs livres. Il était révélé par la meilleure langue. فَلِهَادَ أُنْزِلَ أَشْرَفُ الْكُتُبِ بِأَشْرَفِ اللُّغَاتِ. Regardez, subhanallah, la valeur du Coran qu'on a. Juste le fait qu'il est en arabe, c'est une ni'ma. Juste le fait qu'il est en arabe. Le meilleur livre de tous les livres, il est révélé avec la meilleure langue de toutes les langues, qui est la langue arabe. Et ça, c'est l'explication d'Ibn Kathir du verset. Juste une faïda. Je termine par ce faïda. Et la prochaine fois, je terminerai, inshallah ta'ala, les autres textes qui ont le même sens de l'importance d'apprendre la langue arabe et c'est quoi ce mérite. Juste une faïda. Regardez, j'ai lu le verset, mais personne ne m'a posé la question. J'ai lu le verset, je ne l'ai pas complété, mais je lis ce mot. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. Comment on l'a traduit en français? Comment on l'a donné son sens en français? Certes, nous n'avons fait descendre ou révéler, etc. Et c'est ça le sens du verset. En langue arabe, oui ou pas? pour, je me pose une question. Peut-être parmi nous, ils la connaissent. Pour, regarde, personne ne m'a posé la question. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyan. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Oui ou pas? Qui a fait descendre le Coran? Allahu Azza wa Jal, notre Seigneur, Allah Ta'ala. Oui ou pas? Pourquoi il a dit nous n'avons? Il n'a pas dit je ou j'ai fait révéler le Coran. Dans le Coran, il est marqué inna. Et inna dans la langue arabe signifie que nous, dans la langue arabe. Mais personne n'a posé la question. Non. Non. Et c'est vrai, c'est une choubha. Non, juste une seconde. Il y a une personne qui m'est venue me demander, il m'a dit. Une personne, il est venu me voir, il n'est pas musulman, il m'a dit. Il m'a mis le doute. Il m'a montré qu'il y a plusieurs seigneurs. Il m'a dit, vous dites dans votre Coran, Inna anzalna al Qur'an. Qui signifie nous, c'est-à-dire on est plusieurs. Qui peut répondre à ça? Je lui dis avec la langue arabe. Il peut te mettre les choubha. Une ambiguïté, tu ne sais pas quoi répondre. Et ça peut te mettre le doute. Parce que tu dis, mais pourquoi il y a Inna? Nous. Il va dire, c'est votre Coran qui te parle. C'est pas moi qui l'ai dit. Oui ou pas? Oui ou pas? C'est votre Coran. Vous, votre référence est le Coran. Pourquoi dans votre Coran, il est marqué nous n'avons? Dans le sens, hein. Mais on traduit comme ça. Même en langue arabe, c'est Inas qui signifie nous. On ne peut pas traduire autrement. Mais pourquoi il y a le nous? Et qu'est-ce que je dois répondre à ça? Et pour terminer, et parce que ça va être chaud. Qui a une réponse? Pourquoi? Non. Autre chose. Non. Autre chose. Hey, personne ne peut répondre. C'est un mouche qui est là. Hein? J'espère que demain ils ne vont pas vous poser cette question, parce qu'ils l'entendent. Aïe. Qui peut répondre? Inna, bisirati al-jama. Limala. Bisirati al-jama. Wallah wahidun la sharika lahu. Pour ta'zim, mais pourquoi inna? On peut utiliser autre chose pour ta'zim, pour la glorification. Nous. Mais on peut utiliser autre chose. Mais pourquoi il a dit inna? Pourtant c'est lui, c'est une seule personne. Non, pas sa grandeur ou sa glorification. Pour appuyer, non, c'est ok, non. La réponse, vous voulez la réponse? La réponse, parce que, regardez, écoutez très bien, parce que dans la langue arabe, on peut utiliser le pluriel pour le singulier. Et vu que les Arabes utilisaient cette façon de parler, c'est-à-dire une seule personne, il dit moi, nous, et non. Une seule personne, un individu, un singulier, il peut parler dans la langue arabe avec le pluriel. Parce que ça, ça fait partie de la langue arabe. On ne peut pas dire non, c'est un pluriel. Qui a dit que c'est un pluriel? Non, je dis non. Parce que dans la langue arabe, nécessite que, où ça existe, des paroles des Arabes, ils étaient seuls, il est individuel, mais ils parlent avec la forme du groupe, du pluriel. C'est pour cela, le Coran a été révélé avec la langue arabe. Pas comme nous, ce qu'on comprend aujourd'hui. Comme il utilisait la langue arabe, qu'il utilisait les Arabes à l'époque, Allah Ta'ala a défié les Arabes avec la langue arabe. C'est pour ça que le Coran, c'est un miracle. Oui ou pas pour les Arabes? Pourquoi il a été révélé avec la langue arabe? Pourquoi? Parce que, à l'époque, il parlait la langue arabe. Donc Allah Ta'ala s'est défié, il a défié les Arabes avec le Coran. Et c'est pour ça qu'il est utilisé l'arabe qu'ils utilisaient eux-mêmes. Et c'est pour cela, eux-mêmes, dans la langue arabe, chez eux, on trouve que même le pluriel, il est utilisé pour le singulier. Et après les autres savants, ils ont dit, bien sûr, parce que pour la grandeur, pour la glorification, etc. Mais on peut répondre de plusieurs façons, mais surtout, c'est ça, c'est cette réponse que j'attendais. Donc, on s'arrête là, parce que c'est l'après de l'Isha. Aktabi bihad al-qadar wa a'tadir in fat al-waqt l'Isha. Et la prochaine fois, inshallah ta'ala, le vendredi. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.